Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître ni publicité. Et comme chaque premier dimanche du mois depuis novembre 2019, vous écoutez l'émission mensuelle de l'association des cinéastes documentaristes d'Adoc. On a déjà traité le sujet. Nous sommes toutes réalisatrices ou réalisateurs, membres d'Adoc. Aujourd'hui, il y a Michel Goualès. Non, j'ai mal dit, vas-y, répète.
Gales.
C'est de l'anglais, je suis fâchée avec l'anglais. Samia Jedi.
Bonjour.
Et Nikki Velisaropoulou. On n'a que des noms, et moi, Mélanie Trachler, c'est pas mieux. Je pense qu'on a toutes des noms un peu compliqués. Et donc aujourd'hui, nous accueillons deux réalisateurs. Trois réalisateurs, c'est le masculin qui l'emporte, mais bon, réalisatrice, alors on ne sait plus trop comment faire. Barbara Spitzer, Christophe Cordier et Adeline Godin.
Bonjour
à tous.
Bonjour.
Et donc pour vos films, alors La Grève éternelle et En Grève. On est très très contente aujourd'hui parce que ça résonne au niveau de l'actualité. D'habitude, notre émission, ça n'a rien à voir avec l'actualité, c'est plutôt des films qui se répondent, et parce que quand on va voir des producteurs pour présenter un film, ils disent tout le temps, on a déjà traité le sujet, mais il y a 10 000 façons de traiter un sujet. Et les films, souvent, on peut les faire très différents, avec des angles différents, des approches différentes. Mais là, aujourd'hui, on a un film donc, qui est tourné en 1995 et qui résonne très très bien avec celui qui est tourné en 2019. C'est des connexions de lutte. Donc en 95, c'était par rapport au plan Juppé. Et 2019, ben c'est encore Macron, c'est les mêmes grèves qu'aujourd'hui, les mêmes personnes. D'ailleurs, vous suivez des protagonistes qu'on retrouve que vous avez pour certains suivis depuis 1986. Donc je vais commencer par présenter Barbara. Donc Barbara Spitzer, tu es réalisatrice, photographe et rédactrice depuis une vingtaine d'années. Tu me coupes hein, si je dis des âneries, parce qu'on ne se connaît pas bien. On se découvre un peu. Tu as fait la Fémis à Paris entre 1994 et 1996.
Oui, c'est à peu près ça. Hein.
C'était ça. Tu es d'origine hongroise. Tu as réalisé beaucoup de films, souvent pas traduits chez nous, ça tu le regrettes?
Bah oui. Parce que je travaille en Hongrie depuis 20 ans, de fait. Et donc, c'est un pays qui est fâché avec la France. Et du coup, les Français ne s'intéressent pas beaucoup à savoir ce qui se passe en Hongrie. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à importer ces films en France.
C'était déjà le cas avant que ce soit un gouvernement aussi.
Bah, ça fait longtemps qu'il est là.
Hein. Ouais. Malheureusement.
Le premier que j'ai fait, c'était déjà lui. Hein.
Aïe.
Donc. Mais de toute façon, je pense que ça date pas de ça, parce que si on regarde aussi au niveau de la télévision française, le nombre de films hongrois, il n'y en a quasiment pas. Alors que si on compare avec d'autres pays d'Europe de l'Est, il y en a beaucoup plus. Donc il y a vraiment une inimitié, un désintérêt pour la Hongrie en France qui est très étonnant. Moi, j'aurais pensé pouvoir faire ce pont, puisque j'ai vraiment les deux cultures maintenant, et que je fais un travail justement notamment ma formation politique en France apporte un regard assez différent sur ce qui se passe en Hongrie, et je pense que ce sera intéressant de rapporter ça en France, mais pour l'instant ça n'intéresse pas grand monde d'autre que moi.
Il faudra qu'on fasse une émission avec des films hongrois.
Ah, ça pourrait être excellente idée.
Ouais, effectivement. Donc tu es très engagée dans des films sociaux, tu dresses des portraits intimistes de lutte collective, tu en as un autre qui a été fait, donc On travaille pourquoi, La Grève éternelle en 99. Tu te tournes vers une réflexion plus distancée sur la mémoire et la façon dont l'histoire avec un grand H façonne les individus. À la suite d'un film fondateur que tu as réalisé en Hongrie sur la quête de tes propres origines juives hongroises, il se nommait Ce qu'il en reste, c'est ça? Après, donc, tu as tourné Tonton Jacobine, que tu tournes encore, c'est ça?
Là, je suis en train de finir le montage, en fait. Donc là,
d'accord,
je ne tourne plus.
Tu l'as commencé en 2001.
2003.
2003. Donc, travail de très longue haleine.
Mais bon, il y a déjà deux films qui sont finis et diffusés dans qui font tous partie de ce qui est là appelé l'Oncle Jacobine, mais qui est une trilogie de quatre longs métrages, dont trois sont à la suite les uns des autres, et un que je suis en train de terminer qui est 4 fois 1 heure, spécifiquement dédié à l'histoire de la guerre.
Donc en France, donc tu reviens, tu fais un film. C'est sur un homme de 99 ans, un ancien prisonnier de guerre juif français qui a échappé à la déportation par la magie de la Convention de Genève et désireux de retourner au seuil de sa vieillesse, donc de sa vie en Biélorussie, sur les lieux de sa dernière innocence avec sa petite-fille, son arrière-petite-fille. Tu les suis dans le périple. Ce film-là s'intitule « En remontant les vieilles routes ». Il est assez connu en France, celui-là, quand même.
Connu, j'en sais rien. Non, il a juste été diffusé à la télévision française. À part ça, non, il n'est pas spécialement connu. Mais il fait partie du travail sur du très long terme, puisque ce n'est qu'une étape d'un projet plus long que j'ai avec toute la famille de ce personnage qui s'appelle 5 vivants pour 5 disparus et qui, j'espère, verra le jour bientôt.
C'était en 2012, ça. Donc, tu es aussi engagé avec nous dans les dispositifs d'atelier à l'éducation d'images d'ADOC. On avait d'ailleurs fait une émission avec Samia. Donc, on peut la réécouter en podcast.
Exactement.
Et là, tu avais réalisé Un corps qui cause, c'était en 2016. Donc, c'était dans un hôpital de jour. Je n'ai pas le nom, par contre. C'est quel hôpital ?
Maria Badi.
Merci. Donc, c'était sur des enfants autistes ou apparentés autistes. Et enfin, tu as travaillé...
Qui danse, c'est sûr. C'est sur la danse.
Oui,
c'est sur les enfants qui dansent. Ouais.
C'est pareil, tu les as suivis pendant 6 mois ou plus longtemps, un an même.
Oui.
Ouais. Et donc, tu as aussi travaillé pour Archimède et tu as fait de nombreux sujets environnementaux. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ton film La Grève éternelle, un film que tu as tourné en novembre-décembre 1995 pendant 3 semaines. C'était à ce moment-là que la France vivait un mouvement social très très important, le plus important depuis 68. On en a plein qui me disent c'est 86 aussi, mais oui, mais 95, ça a été plus fort que 86.
Mais 86, c'était beaucoup plus cheminot quand même. 95 était beaucoup plus large.
Oui. C'est pour ça que dans les souvenirs, on se souvient.
Moi, chez les cheminots, c'était peut-être 86, c'était peut-être plus important dans la qualité du mouvement, on va dire, et ce qu'il a créé entre eux. Mais par contre, au niveau de la société française, 95 est quand même beaucoup plus important.
Donc, à l'époque, tout le monde était dans les rues. Il y avait plus de 2 millions de personnes. On était à l'époque contre le plan Juppé. Et toi, tu as vécu tout au long de la grève avec les cheminots de la gare du Nord. Tu as partagé avec eux l'enthousiasme, la colère, les désillusions. Et ton film commence par des images de manifestations. On voit un panneau noir où tu contextualises le plan Juppé, le rejet du contrat de plan SNCF. Et à ce moment-là, en fait, on va d'abord écouter un extrait pour vraiment se mettre dedans. C'est au moment, donc c'est le début du film. Tu racontes un peu comment tu as eu l'idée de faire ce film. Niki, donc le premier extrait, s'il te plaît.
Ah.
Ça va arriver.
Il neige comme en 86, comme quand les grévistes d'alors réveillonnaient sur les voies. Depuis, on a manqué d'occasion pour se revoir. Ils n'ont pas trop changé. En tout cas, je les retrouve.
Ceux qui sont pour reconduire la grève le manifestent en main la main. C'est bon, on peut baisser les... Ceux qui sont contre... Bon, bah écoutez, je pense que ça parle assez bien comme ça. Les abstentions, s'il vous plaît. Non plus. Eh bien, félicitations, vous êtes toujours aussi déterminés.
L'Assemblée générale demain à 11h. Et venez encore plus nombreux.
C'est déjà la deuxième semaine d'une grève qui apparemment ne ressemble à aucune autre. L'emploi du temps de la journée est rythmé par la nécessité de porter cette grève au dehors de la gare du Nord. Et donc d'aller convaincre qui les cheminots retardataires, qui les infirmiers, qui les postiers de rentrer dans la danse.
Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis aiguilleur à Paris Nord, je ne veux pas dire beaucoup de choses de plus. Je voulais juste vous dire qu'il y a une semaine, j'ai téléphoné à ma sœur et je lui ai dit « Ça y est, chez nous, c'est parti, on est en grève, on va se bagarrer contre le plan Juppé. » Et elle habite à Besançon. Et elle m'a dit « Bah, chez nous, à part les cheminots, ça ne bouge pas du tout. » Et je me suis dit « Merde, on va se retrouver que des cheminots et que à Paris. » Hier, elle m'a retéléphoné, je vous raconte un peu ma vie privée, mais hier elle m'a téléphoné et elle m'a dit « À Lure, il y a une manifestation comme on n'en a jamais vu. Alors Lure, c'est une toute petite ville de moins de 10 000 habitants, et c'est justement là où l'information elle est importante, c'est que c'est la France profonde qui débraille, quoi. Ça prouve bien que même là, dans les endroits où il n'y a pas des agitateurs professionnels comme nous, les militants syndicaux, les gens, ils ont quand même reçu le message, et si justement vous décidez de vous mettre en grève, bah c'est vraiment la semaine là qui arrive, c'est la bonne, quoi.
Alors certes, on peut avoir l'impression, nous ici, que ça ne marche pas parce qu'une grande partie des gens travaillent. Et à cela, je leur dis qu'ils peuvent très bien rejoindre le mouvement aujourd'hui, rejoignez la grève, c'est super important, et rendez-vous compte que l'on peut gagner et que l'on peut gagner dans les jours qui viennent.
Ah, Voilà, alors je pense que les auditeurs vont se faire une petite idée. Là, on sent bien la grève, quoi. On sent qu'il fait froid aussi. C'est marrant parce que même on sent la température à l'oreille. C'est donc ça, c'est. Et donc ton personnage, c'est Olivier qui parle. Mais toi, t'expliques bien au début. Tu prends la voix off. On l'entend peu ta voix d'ailleurs dans le film. Mais pourquoi en fait? Qu'a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film?
Effectivement, en 86, moi j'étais une petite fille, j'avais 10 ans, mais mon père avait créé, en fait, avec un groupe de copains à lui, un comité d'usagers solidaires pour lutter contre les comités d'usagers en colère qui avaient été mis en place par le ministre de l'époque, là, dont le nom m'échappe présentement, mais bref. Voilà. Et en fait, ils avaient été assez malmenés sur une distribution de tracts dans la gare. Et du coup, il s'était dit qu'avec une petite de 10 ans, ça allait éviter de se faire casser la gueule. Et donc, du coup, il m'avait emmené. C'est comme ça que j'avais fait la connaissance de tous ces gens. Et comme mon père plaisait pas mal à certains d'entre eux, donc Gilles notamment, qui est un des premiers qu'on voit au début, en fait, il avait laissé planer l'idée que c'était son père, et donc il pensait un peu que j'étais sa sœur. Donc quand je suis arrivée en 95, en fait, ils ont eu l'idée que j'étais un peu la petite fille du mouvement et qu'ils pouvaient m'accepter comme ça, quand ils avaient plutôt tendance à virer les journalistes d'une manière générale. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autres caméras. Mmh. Et donc voilà, moi, je dirais que c'est mon père qui m'a décidé à aller là. Je faisais un film sur mon père à l'époque. Mon père est mort juste après. Il était très malade, mais on a vécu ces 3 semaines ensemble. Lui aussi était très souvent dans le poste. On le voit 2-3 fois dans le film. Et c'était un peu sa dernière grève, quoi.
Donc, il était dans le poste d'aiguillage dans le film.
Ouais.
D'accord. C'est un film hommage un petit peu aussi.
Il n'est pas dedans, en fait. Très peu, quoi. Enfin, moi, je le sais parce que je le repère. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas le traiter. Tout ça, c'est quand même lié au fait que je ne fais maintenant plus que des projets sur le très long terme et que ça fait assez longtemps que j'ai décidé de faire ça comme type de film. Et que donc, j'ai aussi un film sur mon père depuis, pour le coup, encore plus longtemps. Et que je fais ce projet sur les cheminots et sur la façon dont, la classe ouvrière par le haut se modifie à travers ce tout petit prisme de la gare du Nord sur de très très longues années, peut-être jusqu'à la privatisation totale de la SNCF, ou je ne sais pas exactement jusqu'à où. Mais voilà, et dans ce cadre-là, sans doute que mon père aura une place. Mais là, dans le cadre d'un film qui était vraiment un peu à chaud quand même encore sur le mouvement, tout d'un coup, j'avais pas envie de raconter ma part. En fait, la voix, c'est juste parce que j'étais pas là la première semaine. C'est essentiellement pour ça qu'il s'est retrouvé, parce qu'en gros, j'étais en Italie, et que donc il m'a fallu presque une semaine pour réussir à revenir. Quand le temps de comprendre que c'était un mouvement que je voulais pas rater, et ensuite le temps de trouver des moyens de transport qui me permettent de revenir. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai eu besoin de mettre une voix, en fait, au début, pour expliquer pourquoi il n'y avait pas la première semaine.
Mais c'est souvent les voix off dans le début des films, mais c'est vrai que tu as eu de la chance que le mouvement dure longtemps. Alors, toi, tu parles des cheminots de la gare du Nord. Michel, tu vas nous présenter le film de Christophe qui parle des cheminots de la gare de...
Oui. Maintenant, présentons Christophe Cordier et Adeline Gonin, et donc qui sont là pour parler de films en grève qui répond... Il y a beaucoup de résonance et avec l'actualité et avec le film de Barbara. Mais je reprends, dans le cas de Christophe, c'est une longue histoire avec le chemin de fer, une constante, je dirais, puisqu'il y a un premier film avec Varon qui est déjà dans les ateliers de nettoyage. Mm-hmm. Et ce film a été vu, il était sélectionné par Douarnenez, le festival oui. Douarnenez. Mais ensuite, tu as fait donc en 2003 Un jour pour rebondir, mm-hmm. Que tu cites d'ailleurs dans le film En grève. Mm-hmm. Et ensuite, tout de suite après, en 2004, tu as fait un film qui s'appelle Frères des classes,
oui.
qui nous interpelle, nous réalisateurs et réalisatrices, parce que c'est à partir d'une image.
Oui.
Et j'aimerais bien que tu expliques un petit peu ça quand on finit, que tu as la parole. Mais vraiment, on voit que tu réfléchis sur les images et on réfléchit sur, tu réfléchis sur également dans un film que tu as fait par la suite qui s'appelle D'égal à égal, où tu reprends les archives des luttes de femmes libres. Donc c'est un film en archives, c'est à pas lente, mais qui est repris dans le film D'égal à égal, qui est une co-réalisation.
Oui. Absolument.
Donc, tu pratiques souvent les co-réalisations, d'après ce qu'on voit.
Oui, il y a au moins 3 co-réalisations, effectivement, sur les films que j'ai pu réaliser, quoi. Enfin, co-réaliser, pour le coup. Pour moi, le cinéma est un art collectif, et c'est bien de pouvoir associer les visions, les compétences, les regards, et voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant de partager ces moments-là, quoi, avec d'autres. Bon, si parfois, c'est pas toujours facile, mais justement, ça rajoute un peu de difficulté à la création d'une œuvre cinématographique, et on peut en trouver un bénéfice, quoi, pour le spectateur, je pense.
Et je voulais dire juste à propos de ça, on va entendre dans l'extrait, tu dis, on retourne au combat, eux avec la grève, et nous avec nos caméras.
Oui.
Et nos caméras, c'est pas... toi et Adeline, d'après ce que j'entends, mais ce sont tous les réalisateurs et réalisatrices essaient d'être témoins de la grève. Donc, mais j'espère que je voulais juste dire en passant que Douarnenez a aussi sélectionné le film. Fred et classe, j'espère que tu diras un petit peu sur cette réflexion par rapport aux images, parce que les images, il faut les expliquer, il faut les faire vivre, l'image. Et ensuite, on voulait passer à Adeline, qui s'est joint à cette aventure dans Grave. Donc, Adeline, tu es réalisatrice, scénariste, anthropologue et sociologue. J'entends que après des études en anthropologie et sociologie, que tu t'es engagée auprès des résidents des foyers de travailleurs migrants. En fait, j'apprends que tu es très engagée dans ça depuis tes parents. Et donc, tu as fondé l'association Attention Chantier, qui est pour mettre en valeur, enfin pour faire connaître le travail qui est fait dans les foyers. Et que toi aussi, tu as fait Varan en 2011. Ah oui, il y a aussi l'association Actrice, des associations des femmes migrantes. Mais tu ajouteras si j'oublie quelque chose.
Oui, c'est ça.
Et en 2011, tu es aussi passée par Varan et tu as fait un film qui s'appelle Papa Ben sur les chiffonniers. Et ce film a été sélectionné dans le Festival international des films d'étudiants. Ensuite, plusieurs séjours au Mali, qui a une certaine cohérence avec tes centres d'intérêt. Et tu as fait un film sur les petites aides ménagères et un film qui s'appelle Barakaden. Et aujourd'hui, tu animes les ateliers vidéo sur différents territoires en Île-de-France, maisons d'arrêt, foyers de travailleurs immigrants, quartiers populaires, et tu développes en parallèle tes projets. Est-ce que j'ai oublié quelque...
Moi, j'ai rencontré peut-être...
Très bien.
Moi, je suis arrivée à Canal Marche, donc une association audiovisuelle. Moi, je suis arrivée en 2009, il me semble, mais j'ai commencé vraiment à animer des ateliers vidéo en 2012, et là, avec Christophe Cordier. Et c'est vraiment comme ça qu'on s'est rencontrés, en co-animant, mais pas que nous deux, avec donc ce collectif de cinéastes de Canal Marche. Alors, Canal Marche, c'est une association audiovisuelle qui fait des ateliers vidéo, qui est née des marches européennes des chômeurs, donc après les marches européennes des chômeurs, donc en 1997. Donc moi, j'y étais pas, évidemment. J'étais plus jeune. Mais pas que des réalisateurs et réalisatrices. Il y a aussi des marcheurs chômeurs qui ont rejoint Canal Marche, des sociologues, des philosophes, des surréalistes. Toute une petite bande pour créer Canal Marche, pour donner la voix des sans-voix par cet outil audiovisuel. et en animant des ateliers ou en faisant des films avec, avec ces personnes et pas sur ces personnes. Ça, c'était vraiment très important de la part de Canal Marche. Et voilà, donc ils ont fait énormément de, d'ateliers, des universités populaires audiovisuelles, paroles et mémoires des quartiers populaires. C'est très ancré sur un territoire du 20e arrondissement de Belleville, très ancré sur le mouvement social aussi, de faire des ateliers avec des collectifs d'habitants, avec, avec des associations. Enfin, voilà, à un moment, on a quand même formé avec l'université populaire audiovisuelle une centaine de collectifs. Dont le DAL, des collectifs de sans-papiers, des collectifs de Roms, ou des gens qui aidaient des Roms. Enfin voilà, plusieurs personnes. Et nous, avec Christophe, donc on a commencé à travailler ensemble en 2012, donc en animant des ateliers vidéo, plusieurs. Et on s'est mis vraiment à travailler ensemble en 2017, je pense, avec, avec le syndicat solidaire. Donc les Sud, les Sud Rail, Sud Santé Sociaux, et voilà. Et c'est ça qui nous a amené finalement aussi à cette co-réalisation du film En Grève qu'on présente actuellement.
Peut-être nous faire un petit résumé du film En Grève avant qu'on peut, pour les auditeurs qui ne connaissent pas.
Bon, le film En Grève, je cite le résumé. Non, En Grève. Bon, En Grève. Je pense que
d'abord
pour En Grève, ce que je comptais faire, c'était d'écouter l'introduction de Christophe.
D'accord, oui,
dans l'extrait.
Sans rebondir sur le reste, effectivement.
Oui, je pense que ça, c'est la meilleure introduction. Oui.
Au cours du tournage du film Une journée pour rebondir, nous faisons la connaissance de Manu, Basile et Mathieu. Ils font leurs premières armes de syndicalistes à Sudrail et nous ouvrent les portes des assemblées générales de grévistes. À l'époque, ils s'opposent déjà à un projet de réforme des retraites.
L'idée qu'il y a un projet alternatif, qu'il y a une possibilité aujourd'hui de financer les retraites, mais que ça passe par une question de répartition des richesses. Tous ceux qui subissent les plans de licenciement collectifs, si on interdisait ces licenciements, eh ben ce serait des camarades en plus.
Leur détermination à inventer un syndicalisme de contestation plus démocratique nous réjouit. Ils réussissent à faire circuler la parole tout en déjouant les pratiques d'un théâtre syndical bien cadenassé. Avec eux, nous vivons une aventure intense et nous tissons un lien durable avec le sentiment de grandir ensemble. ...16 ans plus tard. Cette amitié va nous permettre d'être au cœur d'une autre grève, lorsqu'en 2019, une nouvelle réforme des retraites attise la colère populaire contre un pouvoir brutal et méprisant. Ensemble, nous nous apprêtons à livrer un nouveau combat, chacun avec nos armes. Eux la grève, nous la caméra.
Alors, il y a deux choses à dire tout de suite. C'est par rapport au choix de personnes avec qui on parle, avec qui on va filmer. Je pense que c'est très pertinent comme question pour le film de Barbara aussi. C'est le choix de personnes. Et je voulais que vous expliquiez un petit peu le choix et aussi les contraintes que vous vous donnez par rapport à ça et bon, pour ma part, je voulais juste faire une remarque au départ. C'est que je suis très étonnée qu'on choisisse 3 personnes. Mais en fait, il y a un certain nombre d'autres personnes qui reviennent et qui, par exemple, il y a ce grand roux qu'on voit identifié comme conducteur de train en grève, il tourne le dos. Tout le long, on a son visage très expressif, mais on n'entend pas ce qu'il dit. Et d'ailleurs, avec une des participants nommées, il y a souvent les visages qui parlent autant que les paroles, toutes les interventions sont excellentes, je crois. Vraiment, on avait du mal à choisir. Mais c'est vraiment très intéressant comment tu enfin lui donnes la parole beaucoup plus tard. Et tout ça s'est tissé vraiment d'une manière très intéressante. Peut-être ma question précisément serait, en quoi étiez-vous consciente de ça pendant le tournage? Qu'est-ce que vous vous donnez comme consigne et des choses sur lesquelles vous êtes éveillée pendant le tournage?
Ben, en fait, si je peux prendre la parole dans un premier temps, c'est il faut faire un petit peu d'histoire quand même par rapport à ce film En Grève de 2019. Pour rebondir sur ce que disait Barbara, elle a eu une entrée dans l'univers cheminot en 86 via son père, etc. Nous, on a eu une autre, enfin moi j'ai eu une démarche en 2000 avec le film La Délégation, mais avec Emmanuel Roy qui est le co-réalisateur d'Une Journée pour Rebondir, en 2003, on s'est intéressé à quelle serait notre place en tant que cinéaste dans une grève, quoi. Et ce qui était intéressant, c'est que quand on est arrivé à Gare de l'Est à l'époque, on s'est présenté comme des cinéastes, non pas comme des journalistes, comme des documentaristes, et on a fait voter notre présence en Assemblée Générale.
Ah, d'accord.
Donc ça, c'était quand même assez intéressant, parce que, comme tu le relatais justement, c'est qu'il y avait une méfiance accrue et justifiée d'un certain nombre de médias qui allaient voir qu'est-ce que c'était que ces Assemblées Générales de grévistes, etc., souvent pour les dénaturer. Ça s'est un peu arrangé avec le temps quand même, ça aussi. Il faut pas non plus raconter trop d'histoires. Mais en attendant, nous, on a été... on a voté notre présence et en une seule fois, donc on a pu suivre l'ensemble de la grève de 2003. Donc une fois que notre présence a été votée, on a eu d'une certaine façon carte libre pour filmer toutes les actions, tout ce qu'on avait envie de filmer, etc. Et du coup, en 2019, quand on est revenu avec Adeline sur le terrain de la gare de l'Est, on s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qui va se passer, un mouvement? On avait des copains cheminots qui nous disaient, nous, on prépare un truc qui va être costaud. Est-ce que, enfin, c'est pas, grosso modo, ils nous disaient pas, est-ce que ça vous intéresse? Mais on sentait qu'il y avait un petit désir de leur part quand même, là-dessus. Et on s'est dit, on va retourner à la gare de l'Est, du coup, 17 ans après, pour voir, qu'est-ce qu'il en est. Et là, par ailleurs, l'Assemblée Générale n'a pas voté notre présence. On était de fait intégrés dès le début, grâce au fait qu'on connaissait déjà depuis longtemps un certain nombre de camarades, si je puis dire, qui étaient là, qui nous connaissaient et qui nous ont introduits auprès de l'Assemblée Générale, quoi. Donc ça, c'est intéressant, c'est que voilà, le lien durable fait que on peut faire du cinéma dans des situations un peu particulières.
Je me posais juste la question sur pourquoi 2019 et pas 2018, en l'occurrence, par rapport à ça.
Alors pourquoi 2019? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi pas 2018? Parce que moi, je m'étais un peu intéressé à comment aller tourner la grève de 2018 et très rapidement, j'ai senti qu'il y avait une mainmise syndicale importante de la part de la CGT. Pour dire les choses comme elles sont, qui n'était pas du tout pour la grève reconductible, qui était sur un aspect, une grève perlée tous les week-ends. Alors c'est une grève qui a duré trois mois, tous les week-ends, etc., qui a dû avoir une incidence forcément sur les événements, mais on sentait qu'il n'y avait pas une volonté SUDRAI a essayé de faire voter la grève reconductible à ce moment-là, ils n'ont pas eu le rapport de force nécessaire, et du coup... très rapidement, c'était une grève qui semblait moins intéressante et un peu trop chapeautée par les directions syndicales.
Alors, si je peux me permettre, je peux aussi... La petite histoire, c'est que Christophe, il a quand même vécu, si tu me permets que je le raconte en direct, tu as vécu quand même cette grève de 2003, enfin, ils ont perdu, quoi, quand même, quelque part. Et, et quand même, t'as, parce que plusieurs... parce qu'il y en a eu plein des grèves. et à chaque fois, ils ont perdu, en fait, quand même, globalement. Et 2018, ça a été quand même... là, pour le coup, ils ont vraiment perdu. Ils ont totalement perdu le statut de cheminot, en fait. Donc, c'était vraiment une grosse perte. Et tu m'as quand même dit plusieurs fois, j'ose pas retourner parce que j'ai peur de porter la poisse.
Oui,
de filmer la défaite, quoi.
De retourner dans une...
Alors, non, mais ce que tu dis, Adine, c'est intéressant parce que, effectivement, j'avais un peu cette crainte-là, mais en fait, ça renvoie au fait, pour mettre ça un peu en perspective, et là, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la caméra, nos caméras, c'est-à-dire que, enfin, nous, on se considère un peu, enfin, en tout cas, moi, personnellement, un peu dans la filiation des groupes de cinéma militant des années 60-70, des groupes nés de Vikings, qui étaient des cinéastes, qui travaillaient dans le milieu ouvrier, qui donnaient la parole aux ouvriers, enfin, aux salariés, enfin, qui filmaient le travail, quoi, différemment de jusqu'alors, quoi. Cette génération des années 60-70 ont filmé beaucoup de victoires sociales, beaucoup de... Et nous, on fait partie d'une génération où on a filmé les défaites quelque part. Donc c'est un peu terrible. Oui. Mais bon, en même temps, il faut s'atteler à tout. Il faut que les générations, chacun son labeur, si je puis dire. Et nous, par ailleurs, bah, on filme quand même des semi-victoires, des semi-défaites, des défaites, des reculs, mais aussi des avancées. Parce que quoi qu'il en soit, de toute manière, un mouvement comme on a vécu en 2019, qui est un peu une grève oubliée, hein, faut se rappeler que ça a duré plus de 60 jours, enfin, voire même, enfin, 2 mois plein, quoi, en grève reconductible. Et c'est la grève la plus longue dans l'histoire du chemin de fer, reconductible. Et comme il disait à son général, là, je fais un laus un peu long, et à chaque fois qu'il pétait tous les records, et à chaque fois, il y a quelqu'un qui prenait la parole en disant, bon, on a pété le record de 86, de 95, de 68, de 1936. Comment 36, vous avez pété le record 36 en 2019. Bon, alors, ça nous faisait plaisir. À tous et à tous, c'est sûr, c'était ouais. Enthousiasmant. Mais bon, voilà, on l'a un peu oublié. Donc nous, voilà, effectivement, on est un peu... Et nos caméras, c'est ça. C'est effectivement, c'est un peu en hommage. Nous, on perpétue le fait des cinéastes militants. C'est peut-être le mot est un peu galvaudé.
Engagé,
des cinéastes qui s'intéressent à des aspects de la société où il y a une invisibilité, une incompréhension. On voulait casser un peu l'esprit du cheminot bashing. En disant, mais bon, voilà, c'est...
Oui, mais je pense qu'il y a quand même très important dans En Grève le fait de pouvoir reprendre d'une façon très éloquente dans les prises de parole le pourquoi. Et nous avons dit combien de fois c'était très difficile de choisir quel extrait, oui. Parce que les enjeux sont vraiment bien expliqués, que ce soit
dans même, la grève éternelle ou dans les deux.
Dans les deux, absolument. Oui. Mais je veux dire, peut-être on peut écouter...
On va mettre un petit morceau de musique, parce que souvent les auditeurs nous le reprochent, on ne met pas assez de musique dans les émissions.
On va revenir sur cette fait qu'il y a vraiment... Vous nous rendez un grand service aujourd'hui, parce que ce qui est dit est vraiment nécessaire que les gens entendent en ce moment. Les enjeux sont bien présentés. Merci.
On va mettre la musique, on va mettre les fabuleuses troubadours avec Il nous ment. Le gouvernement nous ment, justement.
En effet.
Pour rester un petit peu dans l'ambiance.
Il nous ment, il nous ment, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous ment, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous ment,
regardez son nez s'allonge, il nous ment effrontément.
Il nous ment,
s'il a l'air aussi sincère, c'est parce qu'il ment franchement.
Il nous ment,
c'est rien que du blablabla, il a pas un seul argument.
Il nous ment,
c'est à des fins bien précises qu'il nous parle vaguement.
Il nous ment,
on fera pas de concessions, y'aura pas d'arrangement.
Il nous ment,
il nous promet des embauches, il y aura des licenciements.
Il nous ment.
Pas question qu'on lui laisse faire ça impunément.
Il nous ment.
Et méfions-nous des reculades quand il parle avancement.
Il nous ment.
Ce qu'il veut c'est nous casser purement et simplement.
Il nous ment.
On va lui répondre merde poliment mais fermement.
Il nous ment.
Ni à prou des belles paroles, on veut de vrais changements.
Il nous ment.
Pas de plan sur la comète, un plan de recrutement.
Il nous ment.
Ce qu'on veut, ce qu'on exige c'est de vrais engagements.
Il nous ment.
Il nous parle d'arbitrage mais vous avez vu comment.
Il nous ment.
Qui c'est qui choisit l'arbitre, c'est lui arbitrairement.
Il nous ment.
Plus il parle, plus il ment. Il se croit au Parlement.
Il nous ment.
Écoutez ces jérémiades, il en fait tout un roman.
Il nous ment.
Mon corps se sert à ses serments et à tous ses serments.
Il nous ment. Il nous raconte sa vie, il veut nous prendre au sentiment.
Il nous ment, il nous ment.
On s'en fout de son histoire qu'il la raconte à sa maman.
Il nous ment, il nous ment.
S'il croit qu'on va le croire et gober ça aveuglément.
Il nous ment, il nous ment.
Il se met le doigt dans l'œil qui se le met au fondement.
Il nous ment, il nous ment.
En un an on gagne moins que ses frais de déplacement.
Il nous ment, il nous ment.
S'il me donne son salaire, je veux bien ses embêtements.
Il nous ment, il nous ment.
Qu'il ajoute son capital et je prends tous ses tourments.
Il nous ment, il nous ment.
On les connaît ses excuses et tous ses empêchements.
Il nous ment, il nous ment.
Avec son flot de promesses, il saoulerait un régiment.
Il nous ment, il nous ment.
Ça fait des mois qu'on réclame et il fait l'étonnement.
Il nous ment, il nous ment.
Il nous paye une misère et il veut des remerciements.
Il nous ment, il nous ment.
Ce qu'il voudrait peut-être c'est qu'on bosse bénévolement.
Il nous ment, il nous ment.
Les heures supplémentaires, ça se paye en supplément.
Il nous ment, il nous ment.
Qu'il nous parle un peu de pèse, on verra pour l'apaisement.
Il nous ment, il nous ment.
Il nous ment, il nous ment. C'est du vent, il nous balade. Il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous ment, il nous ment. C'est du vent, il nous balade. Il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous ment, il nous ment.
Oh vraiment, il est gonflé par les épanouissements.
Il nous ment, il nous ment.
Dévouement à l'entreprise, oui, mais pas n'importe comment.
Il nous ment, il nous ment.
Attachement à la boîte, oui, mais pas enchaînement.
Il nous ment, il nous ment.
On est OK pour le service, pas pour l'asservissement.
Il nous ment, il nous ment.
Nous, on veut bien que ça change, mais c'est quoi ces changements?
Il nous ment, il nous ment.
Pour lui, les améliorations, pour nous, les désagréments.
Il nous ment, il nous ment.
Devinez ce qui se cache sous le mot redéploiement.
Il nous ment, il nous ment.
Devinez ce qui se cache sous le mot remaniement.
Il nous ment, il nous ment.
On va lui faire piger que nous, on voit les choses autrement.
Il nous ment, il nous ment.
Il veut nous assassiner avec notre assentiment.
Il nous ment, il nous ment.
Coin douce et magouille, il est dans son élément.
Il nous ment, il nous ment.
Au plus grand menteur sur terre, on va lui faire un monument.
Il nous ment, il nous ment.
Un monument qu'on payera avec ses émoluments.
Il nous ment, il nous ment.
Mais vraiment, il nous les brise pour parler vulgairement.
Il nous ment, il nous ment.
Maintenant, moi j'en ai marre, faut qu'il nous traite autrement.
Il nous ment, il nous ment.
Maintenant, il y en a assez, virons-le sans ménagement.
Il nous ment, il nous ment.
Non, 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 faut rester calme, pas de signe d'énervement.
Il nous ment, il nous ment.
C'est justement ce qu'il cherche qu'on craque nerveusement.
Il nous ment, il nous ment.
Pas de geste individuel, faut agir collectivement.
Il nous ment, il nous ment.
Jusqu'ici, tout s'est décidé très démocratiquement.
Il nous ment, il nous ment.
Ce qu'il faut, c'est tenir bon, tous ensemble dignement.
Il nous ment, il nous ment.
On est là et on y reste jusqu'à leur épuisement.
Il nous ment, il nous ment.
Tiens-moi là les petits chefs et tout l'encadrement.
Il nous ment, il nous ment.
Costard noir et mine sombre, on dirait un enterrement.
Il nous ment, il nous ment.
Regardez l'autre chuchote avec ses chuchotements.
Il nous ment, il nous ment.
C'est son larbin, machin truc, on veut pas de son truchement.
Il nous ment, il nous ment.
C'est pour nous faire maigrir qu'il est payé grassement.
Il nous ment, il nous ment.
Il va venir nous prêcher la paix et le renoncement.
Il nous ment, il nous ment.
Eh bien, on va l'envoyer paître, mais très pacifiquement.
Il nous ment, il nous ment.
Il peut que pigeonner les jaunes avec ses roucoulements.
Il nous ment, il nous ment.
Les voilà qui s'approchent avec des toussotements.
Il nous ment, il nous ment.
Ils se préparent leurs phrases, va y avoir de l'enrouement.
Il nous ment, il nous ment.
Il nous ment, il nous ment. C'est du vent, il nous balade. Il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous ment, il nous ment. C'est du vent, il nous balade. Il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous ment, il nous ment.
Prenons l'air de mine de rien, on va voir leur comportement.
Il nous ment, il nous ment.
Cette histoire de chorale dépasse leur entendement.
Il nous ment, il nous ment.
À voir comme ils pointent le nez, on voit leur désappointement.
Il nous ment, il nous ment.
Continuons à chanter en conversant tranquillement.
Il nous ment, il nous ment.
T'as, j'ai trouvé un sujet, je vais vous parler d'instruments.
Il nous ment, il nous ment.
Le tambourin pour les manifs, c'est le top, assurément.
Il nous ment, il nous ment.
Ça accompagne la parole sans la couvrir brillamment.
Il nous ment, il nous ment.
C'est pas lourd, c'est mobile et ça se joue facilement.
Il nous ment, il nous ment.
Oui, messieurs, on peut répondre, mais chansonnièrement.
Il nous ment, il nous ment.
Non, messieurs, on reste là, pas d'autre fonctionnement.
Il nous ment, il nous ment.
Totalement, hors de question de nous prendre séparément.
Il nous ment, il nous ment.
On marche pas dans ces trucs, c'est que des raisonnements.
Il nous ment, il nous ment.
On veut parler de tout ici, devant tous, transparemment.
Il nous ment, il nous ment.
Tout à fait, c'est très possible, et pas démagogiquement.
Il nous ment, il nous ment.
Ce qu'on veut, ce qu'on attend, c'est des éclaircissements.
Toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Aujourd'hui, nous avons invité Barbara Spitzer, Christophe Cordier et Adeline Gonin. Et donc là, nous avons choisi un extrait de La Grève éternelle de Barbara, c'est parce qu'on parlait, juste avant l'extrait de musique, des protagonistes. Et la différence entre vos deux films, vous êtes tous les deux sur du suivi, mais Barbara, elle est aussi dans les moments... Elle l'a bien expliqué au début, ce que je ne savais pas, c'est que tu étais un peu la mascotte. Ils t'ont connue toute petite, donc c'est peut-être pour ça aussi que tu es aussi dans ces moments. Puis il y a ton papa, dans le poste d'aiguillage.
Ah, mais c'est aussi parce qu'ils occupaient des postes à l'époque.
Et oui,
c'est bien une question d'actualité. On n'occupe plus des endroits. Donc,
c'est vrai, effectivement. Ouais. Donc ça, donc effectivement. Donc, et donc là, à ce moment-là, le son, moi, c'est une copie de DVD, ça date de 95. Donc on s'excuse auprès des auditeurs, ça va être difficile à entendre, mais il me paraissait très important cet extrait où il y a Laurent qui parle pas comme un syndicaliste. Alors Laurent, il doit être pas syndicaliste.
Je crois qu'il
est dans un moment de sa vie, il se pose des questions existentielles et ce moment, moi, je l'ai trouvé assez fort. On écoute le deuxième extrait. Merci, Niki.
Ah, Je pense pas que les gens soient prêts à faire ce genre de truc, à aller à ce point-là, à aller aussi loin. Mais c'est vrai que moi, ouais, j'aimerais bien ma petite révolution. Ouais. Déjà pour essayer, je dis pas que ça serait mieux après, quoi, mais au moins d'avoir un espoir. Quoi. Parce que là, bon, quoi qu'il se passe, je veux dire, aussi bien pour le retrait du plan Juppé, si tout est enlevé et tout ça, je veux dire, bon, c'est une victoire, mais c'est pas, on n'a pas gagné la guerre. Hein. On doit faire d'autres trucs derrière. Moi, je vais te dire, ce que je reproche à l'heure actuelle, c'est tout pour le fric. Et puis, t'as du fric, t'es un dieu, t'en as pas, t'es de la merde. Quoi. C'est, en gros, c'est ça maintenant. Hein. C'est la consommation à outrance, c'est. Je veux dire, des trucs peut-être banals, tu vas dans la rue, je veux dire, tu te balades dans Paris, maintenant tu dis bonjour à une personne dans Paris que tu connais pas, elle appelle la police, quoi, elle a peur. Quoi. C'est tout un. C'est une société matérialiste et puis qui... De toute façon, on s'autodétruit. On s'autodétruit parce que bon, le principe, je vais même plus loin, le principe de l'argent et tout ça, parti comme c'est parti là, je le verrai peut-être pas à mes enfants non plus, mais un jour l'argent ça va exploser.
Ah, c'est coupé peut-être un petit peu, mais c'était très difficile. Effectivement, donc il parle de la vie en général, c'est plus. Donc ce moment-là, tu l'as capté en pleine nuit, c'est ça, tu disais ?
Donc, oui, c'était dans le poste d'aiguillage la nuit. Hein.
Et là, c'est pas un discours de syndicaliste, c'est un discours de. C'est un moment dans le film, d'ailleurs, on l'entend même dire si on gagne pas ce coup-là, plus jamais je ferai la grève. Il est. C'est. Tu parlais des.
Je sais pas ce qu'il est devenu, en l'occurrence, lui, je l'ai pas retrouvé dans les mouvements suivants, donc je sais pas.
Tu l'as jamais retrouvé après ? Non. Donc, des extraits comme ça, c'est parce qu'il se faisait à tour de rôle. Tu disais, ça se fait plus maintenant, on n'est plus dans les postes d'aiguillage, c'est d'autres formes de lutte.
Oui, mais enfin, c'est des formes qui sont manquantes quand même. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Donc, j'ai tourné en 2003, en 2007, en 2010, en 2014, en 2018, en 2019 à la Gare du Nord. Plus longuement en 2018 et en 2019, enfin en 2003, en 2007 aussi. Mais et effectivement, on voit évoluer ces formes-là de la grève. Actuellement, c'est quand même une grosse question parce que dans votre film, on voit beaucoup d'âgés. Et de fait, l'âgé était une espèce de forme comme ça, centrale. Alors dans mon film, on voit aussi beaucoup d'âgés. Puis on voit deux âgés. On voit l'âgé des conducteurs avant l'âgé général et puis l'âgé général. Et puis il y avait quand même un constat fait un peu partout que, notamment dans l'âgé général, c'était très maîtrisé par les syndicats quand même essentiellement, et que cette parole elle est pas libre à beaucoup d'endroits, elle est pas libre, la grande parole d'âgé, et que du coup et actuellement il y a même plus d'âgé, puisqu'en gros ce que disent les gars là aujourd'hui, c'est que plus personne n'est intéressé à venir en âgé, les gars ne viennent plus, ils sont 10 en âgé, on décide rien à 10. Et donc comment, quelle forme on peut trouver aujourd'hui qui ne soit pas l'Assemblée Générale, sachant que que justement il n'y a pas d'occupation non plus de lieu. Donc moi c'est la question que je leur pose régulièrement, c'est et alors on fait comment pour discuter, quoi, parce que donc les réseaux sociaux c'est quand même ce par quoi ça mène, tout le monde sait aussi que c'est pas un espace de discussion, c'est un espace de rendez-vous éventuellement, mais c'est pas un espace de discussion. Et donc elle est où, elle est où cette possibilité d'échanger et donc aussi de mener sa grève en dehors de ce que les syndicats décident. Parce que c'était justement la grande beauté de 86, c'est que c'est une grève qui a été lancée par trois mecs un peu, déjantés à l'arrache, qui ont dit on va faire ça, complètement, qui ont cherché ensuite à s'appuyer sur un mandat syndical, qu'ils ont fini par trouver à un endroit, pour pouvoir démarrer cette grève. Et ensuite, ils y sont allés quand même à peu près au pipeau au départ, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils étaient en grève, que le dépôt entier était en grève alors qu'il ne l'était pas vraiment.
Et c'est parti de Gare du Nord.
C'est ces trois gars en question. Il se trouve qu'il y en a plusieurs que je connais parmi eux, donc ils m'ont raconté dans le détail comment ça s'est passé. Et c'est extraordinaire, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient là, et ils ont dit, on y va au bluff. On leur dit, on est tous en grève, ce jour-là, à minuit, alors qu'ils étaient une poignée, quoi. Et ils ont réussi comme ça à faire débrayer toute la France dans une espèce de stupéfaction des syndicats qui ensuite ont passé quand même tout le mouvement à essayer de rattraper le mouvement pour ne pas rater cette grève, entre guillemets, qui était la plus forte depuis longtemps et qui leur échappait totalement. Et du coup, cette première forme d'organisation, ça a permis ensuite que toute la grève s'est quand même... auto-organisée dans le sens le plus noble du terme, et c'est ce à qu'on a tellement de mal à faire depuis. Donc c'est vrai que, hélas, j'étais beaucoup trop petite pour faire un film en 86, mais donc il y a pas ça. Mais c'est vrai que ça donnerait des idées, quoi, en fait, quand même, parce que là...
Tu te dis, oui, je veux faire ma petite révolution. Toi, dans ton film, Christophe, il n'y a pas eu de moment de break où on les a toujours dans l'action?
Non.
Alors ça dépend, mais moi je le note, on note comme Barbara cette évolution effectivement où l'AG est entérinée d'une certaine façon, elle s'est modifiée au fur et à mesure des conflits, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'occupations, oui. Il y a de moins en moins, on a revu un petit peu là dans cette grève là quelques occupations de voies, mais pas faites par les cheminots. Parce qu'ils risquent gros. En fait, ils envoient. Enfin, il y a la stratégie, c'est d'emmener d'autres manifestations qui sont pas cheminots sur les voies. Parce que effectivement, il y a une coercition très forte au sein de la SNCF. Et quand on fait grève à la SNCF aujourd'hui, et ben on peut risquer gros aussi de ce point de vue-là, quoi. Effectivement, on voit bien dans ton film cette évolution aussi. En 2003 aussi, il y a eu beaucoup plus d'actions, des occupations. En 2019. Il y a eu très très peu d'occupations, quoi, ni même de postes d'aiguillage, ni même de voies, ni même, et encore aujourd'hui. Donc oui,
les actions, par contre, il y en avait beaucoup.
Les actions,
ouais. En 2019.
En 2019, ouais, il y a eu beaucoup d'actions.
C'est pas des espaces de discussion.
Non, mais il y a eu, voilà, c'est ça. Et l'aspect de la discussion, moi je pense qu'elle s'est effectivement un peu perdue au fil du temps. 86, c'est extraordinaire, parce que là, les coordinations de cheminots, parce que c'est devenu ça à un moment donné, a permis à ce que effectivement les cheminots bousculent, enfin grévistes, les directions syndicales qui étaient quand même assez monolithique, hein, enfin assez dur, quoi, hein, bastion très fort, etc., CGT, MMFO, etc. Alors une CFDT quand même un peu plus en lutte chez les cheminots 86, qui ont rejoint les coordinations, etc., faut pas l'oublier. Effectivement, là il y avait un aspect d'auto-organisation extraordinaire. Et puis il y avait aussi l'élan du mouvement étudiant de 86, hein, donc qui a donné une impulsion, je pense, aux cheminots de 86, en disant les étudiants, ils ont réussi à faire reculer la loi de Vaquet. Il y a eu malheureusement la mort de Malik Oussekine en décembre 86 et le 5 décembre. Et il se trouve que la grève de 2019, c'est le 5 décembre, ça démarre aussi. Il y a des trucs comme ça. Et bon, enfin, et effectivement, ils ont eu un élan extraordinaire. Après, on a pensé que l'auto-organisation, enfin, ça se fait vivre, enfin, ça s'alimente, c'est pas un truc qu'on entérine comme ça. On a imaginé que c'était quelque chose d'un peu acquis dans les assemblées générales. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu aussi que les organisations syndicales reprenaient un peu le dessus. Pour un peu faire en sorte que les espaces de parole soient un peu plus limités. Ça, c'est sûr. Par ailleurs...
Vous avez des scènes d'AG qui sont intéressantes,
ah oui,
où les prises de parole sont extrêmement claires. Oui. Nous avons choisi un entretien avec un journaliste, mais il y a le premier AG où la femme Manu annonce, oui, la mort, oui, d'un sous-traitant. Pardon, excuse-moi, je tape sur la table. la mort d'un sous-traitant, c'est très important, ouais, c'est un moment très important. Ouais. Il y a un autre moment où un annonce que dans, et c'est bien dans l'AG, où les gens discutent du fait qu'on va obliger tout le monde de prendre un retraite complémentaire. Mm-hmm. Enfin, je veux dire, je pense que ce qui est vraiment intéressant dans le film, les discussions dans les AG sont très intéressantes. Bon, c'est un autre AG. C'est vrai que nous avons un problème de trouver les luttes comme l'occupation de postes d'aiguillage. Ça, c'est... Ah oui. On l'a pas.
Et puis, ce qu'on voit bien aussi dans le film de Barbara, à l'époque aussi, et même en 2003, les cheminots, enfin les grévistes, pouvaient interpeller leur direction régionale ou départementale ou de gare. Il y avait humainement quelque chose où on pouvait effectivement, et même dans, il y a une scène où en AG, il y a un mec de la direction qui vient prendre la parole. Bon, c'est assez étonnant.
Oui.
Ça, c'est plus possible parce que justement, la direction a bien pigé qu'il fallait pas de contact comme ça. Donc, on fait en sorte de laisser les travailleurs en grève de leur côté et après, on sait plus à qui on s'adresse. Donc il y a aussi ça qui...
Moi, ce que je peux peut-être ajouter, c'est que nous, en tout cas, quand on a pensé le film, on s'est vraiment... Enfin, nous, en tout cas, comme on le vivait, on est vraiment rentré dans la grève avec eux, dans une grève reconductible, au long cours, et finalement à vivre cette grève comme les cheminots et les cheminotes. D'ailleurs, même, on nous a nommés cheminots d'honneur, parce qu'on était là avec eux, finalement, et elles. Mais nous, ce qu'on a vraiment senti, enfin que moi je ne connaissais pas, et là pour le coup je pense que c'est vraiment Christophe qui m'a amenée à ça, parce que tu le savais, tu avais déjà fait des films et tout auprès des cheminots, mais c'est que la grève produit de la pensée en fait, que les assemblées générales nous permettent un moment de s'arrêter, enfin la grève nous permet de nous arrêter, de décider qu'on ne va pas travailler, du travail aliénant, et que là on s'arrête et qu'on décide ce qu'on veut faire de notre journée où on n'est pas payé. Et ça, c'est hyper important, finalement. À un moment, on se dit, qu'est-ce que je veux faire de ma journée ? Eh bien, je vais commencer par une assemblée générale, je vais peut-être aller voir les professeurs, les agents de la RATP pour aller discuter avec eux, etc., etc. Et ça, moi, c'est quelque chose que je me suis vraiment rendu compte pendant la grève, quand je faisais la grève avec eux et elles, et c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu vraiment mettre dans le film aussi, et je retrouvais ça vraiment surtout avec la scène de ton film, Barbara, avec la scène de la scène dans la station d'aiguillage où finalement on parle totalement d'autre chose, et on parle de la société de demain, que finalement on veut pas de la surconsommation, enfin que c'est pas ça la société que nous on veut, et qu'on nous impose finalement une forme de société qu'on veut pas, et ça c'est... Et moi, je l'ai retrouvé dans notre film aussi.
Il y avait cet extrait très intéressant où quelqu'un qu'on voit dans les deux films d'ailleurs, parle de, on vient nous parler des chiottes dans le train, et nous, on veut parler d'un projet de société.
Oui, c'est ça. Ou même, par exemple, quand nous, Serge, à un moment dans le film, nous dit en assemblée générale, on a gagné 40 jours de liberté parce que moi, mettre mon bleu de travail et savoir si mon rondin, la porte, elle se ferme ou elle se ferme pas, j'en ai ras-le-bol de faire ce travail. Et quand j'entends dans ton film, Barbara, la personne qui dit à la toute fin... j'ai plus envie de bosser. C'est incroyable.
C'est le titre du film d'ailleurs.
Oui, la Farge. C'est la citation de La Farge.
Christian. Ouais. Voilà, c'est incroyable ces résonances. Et là, et d'ailleurs, nous, c'était aussi une question qu'on se posait beaucoup. C'était, mais finalement, bon, on savait y répondre, mais du moins, c'est les questions qu'on imposait un peu au producteur, c'était de dire, le producteur il se posait beaucoup la question, mais pourquoi ils repartent en grève finalement? Pourquoi ils retournent? Ils y retournent à chaque fois. Mais en fait, c'est parce que justement, ça permet tout ça d'être en grève. Ça permet de s'arrêter, de réfléchir et de voir ses collègues aussi. Parce que ça, c'est très important dans le film, Barbara. Justement, à un moment, quand il lui explique comment ça fonctionne, la station d'aiguillage, c'est une vraie transmission entre personnes qui sont de la même boîte, mais qui ne se connaissent pas du tout, qui ne travaillent jamais ensemble, finalement. Pourtant, ils sont collègues. Et ça, c'était quelque chose qui revenait souvent aussi, nous, en Assemblée Générale. Alors après, nous, dans notre film, ce qui était... ce qu'on nous a beaucoup dit, mais qu'on ne voit pas dans le film, c'est qu'en 2019-2020, ça a quand même vraiment fonctionné. Les gens se sont arrêtés beaucoup. Et en fait, maintenant, dans le territoire, les cheminots, les cheminotes habitent très, très, très loin. Ils habitent quand même presque à 2 heures de route, en fait, de la gare. Et en fait, à Gare de l'Est, c'était des petites AG. Mais les autres gares, c'est-à-dire Gare de Vert, enfin, de tout le réseau en banlieue très éloigné, les assemblées générales étaient très importantes. Sauf, nous, on ne pouvait pas y aller et eux ne venaient pas non plus. Mais en fait, c'était des assemblées beaucoup plus importantes qu'à Gare de l'Est.
On va écouter un autre extrait de En grève, justement. Tu peux en parler, Michel.
Bon, on va écouter, c'est un des extraits qui explique un peu les enjeux et ce qu'on a besoin en tant que public de comprendre le contraire de ce qu'ils racontent les médias. Et donc, Nikki, si tu peux envoyer, c'est un entretien pendant la manifestation, mais... qui est assez pertinent aujourd'hui encore.
Même si Macron ne veut pas, nous on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là.
Un pas dans le vide, hein. Moi j'ai 11 ans, une gamine de 18 ans. Pour eux, parce qu'ils vont en avoir un avenir de merde. Moi j'ai les enfants comme vous. Hein. Moi je suis issu dans la rue, c'est pour eux plus tard, hein. Franchement je vous le dis. Hein. Parce que moi encore, je dis pas que ma vie est faite, mais même pas avec leur point, le système de retraite à point. Moi si je perds 10 ans de ma vie de boulot, je fais comment? Je vais jusqu'à 75 ans bosser. Hey, moi je travaille en 3-8, je fais une heure de route, aller-retour, mais je vais crever au boulot. Pour qui? Pour des capitalistes, pour des macroniens qui revendent tout ce qui est. La française des yeux, qu'ils ont vendu, les aéroports, tout ce qui est nos biens de l'État. À un moment, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Le peuple, il est descendu dans la rue. Regardez, c'est des gens comment, comme vous, comme moi.
Il y a un aspect presque un peu aussi de revanche par rapport à 2018, parce qu'on a fait trois mois et demi de grève, et on a perdu à la fin. Les régimes spéciaux, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. C'est même pas 1% des salariés aujourd'hui du pays, et la réforme, la retraite à points, ça va toucher 100% des salariés. Donc, tout le battage qui est fait autour des régimes spéciaux, c'est de l'enfumage. Aujourd'hui, par exemple, l'ouverture des droits pour partir à la retraite à la SNCF, pour les sédentaires comme moi, ça peut être 57 ans.
Et dans les faits,
le rapport de la Cour des comptes lui-même dit que ça concerne 0,3% des cheminots, parce qu'on est touché par une décote. Et donc, une décote de 1,25% en moins par trimestre manquant, si vous manque 5 ans, c'est 20%, 25% de retraite en moins, donc personne ne part en fait à 57 ans. Je ne suis pas contre un seul régime de retraite, aligné par le haut, j'ai aucun souci. Que tous les travaux pénibles puissent partir à 55 ans quand on travaille dans le bâtiment, quand on travaille caissière avec des horaires décalés aujourd'hui où on peut terminer à 21h et on travaille les samedis et les dimanches, que les droits à la retraite soient ouverts à 55 ans pour tout le monde, j'ai aucun problème. L'idée, c'est d'aller vers le progrès, pas d'aller en arrière.
Donc, on a entendu l'explication avec le journaliste, ce que nous a entendre d'une façon récurrente qu'il y a un privilège. D'ailleurs, on entend toujours les acquis sont des privilèges. Et que et cette histoire de retraite à 57 ans, donc lui, il revient d'une façon très, très claire sur la décote. Peut-être tu peux le reprendre, mais enfin, ce qui fait qu'il dit qu'il y a 0,3%. De ceux qui seraient soi-disant dans la catégorie qui pourraient prendre la retraite à 50 ans, mais ils ne le prennent pas parce qu'il y a un système de décote qui fait qu'ils n'auront pas assez d'argent. Et donc, il finit son intervention d'une façon très claire où il dit, par contre, le point, ce système de points, ça va toucher tout le monde. Donc, peut-être on a cette intervention qui est pour une fois pas dans une assemblée générale, mais là je pense que notre question serait comment vous organisez pour décider à quel moment où vous avez une énorme tournage ensuite vous dispatchez les choses, mais est-ce que vous avez d'une part respecté un ordre chronologique ou est-ce que vous vous permettez de changer pendant le montage?
Alors, déjà, petite rectification, ils ne partent pas à 50 ans. Il n'y a pas un cheminot qui part à 50 ans.
57 ans.
Ah, j'ai compris 50 ans, pardon.
Non,
57 ans. Et puis après, effectivement, il y a l'histoire de la décote où, en fait, finalement, personne part à 57 ans. Donc, ils partent beaucoup plus.
Mais
beaucoup
tout
plus
le public bon, en ben parle.
Oui, mais c'est comme la prime charbon, c'est comme ce genre de bêtises. Tout le monde, ça n'existe plus. Donc, clairement.
Depuis 1973, il n'y a plus de prime charbon. Hein, donc,
Et puis, ça fait 30 ans que la SNCF est démantelée, que la privatisation est accentuée, que les droits sociaux sont perdus. Et les cheminots, ils sont garants de ça. Quoi. Ils essayent de garder ce qu'ils ont encore un petit peu sous la main.
Et tout au début du film, si je, quelqu'un qui dit, c'est dit très vite, mais c'est très important. Moi, je le cite souvent quand je discute avec les gens. Mais l'exemple de 5 semaines de grève, c'est parce que les cheminots avaient avant que les autres ont pu l'avoir. Donc, il faut, comme lui dit, prendre ça comme modèle et pas comme, comme quelque chose. Mais bon, il finit très bien. Mais pour revenir à l'écriture, comment est-ce que vous décidez?
Alors, d'une part, on n'a rien décidé d'une certaine façon parce qu'on ne savait pas combien de temps allait durer cette grève. On n'avait pas, tu sais, quand on...
Non, mais est-ce que vous suiviez le temps
Sur un événement comme celui-là, après au montage. Alors, on n'a pas trop tourné parce qu'on savait un petit peu ce qu'on avait envie aussi. Hein, donc, on n'a pas trop mouliné, même si on était présent par ailleurs. Mais on a fait attention parce qu'après, on s'est dit on allait se retrouver avec une quantité hallucinante de roches. Et puis, on a fait le choix de suivre plus ou moins nos protagonistes de 2003, qui étaient Manu, Basile et Mathieu. Et ensuite, on a découvert d'autres personnages qui viennent au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on a voulu construire le film, quoi. Enfin,
Oui, si je peux rajouter, c'est que on avait quand même des scènes en tête qui étaient très fortes, comme Manu qui parle en assemblée générale et qui nous parle de l'Australie qui brûle, et qui justement, on parle de la grève, mais elle parle de l'Australie qui brûle, et qu'est-ce qu'on veut comme monde demain, un monde sans animaux, un monde avec que des ultra-riches qui décident pour nous, etc. Ça, par exemple, on l'a vécu, c'était très fort au moment du tournage. On savait que ça allait être dans le...
Dans la boîte. Enfin, que c'était dans la boîte, et on savait que ça serait dans le montage.
Parce que on l'a vécu... Enfin, moi, en tout cas, l'image que j'avais, c'était une Louise Michel qui était sur la barricade et en train de sauver le petit chat de la barricade. Enfin, moi, j'avais vraiment eu ces images. Donc il y avait quand même des moments... Par exemple, Mordilla aussi, qui nous parle de ce que c'est qu'être en grève et finalement pour qui on fait la grève et qu'on le fait pas forcément pour nous mais pour les autres, la génération future, et que finalement on sera jamais assez vous avez...
On peut le passer maintenant, mais c'est vrai qu'on l'avait choisi de finir, mais Barbara, je voyais que Barbara voulait intervenir.
Effectivement, sur la dernière chose qu'elle vient de dire, juste sur la chronologie, pour rajouter, moi je pense que la vraie question en fait dans le... Bon, moi, c'est vrai que j'essaye de suivre les mouvements et de raconter comment se construit une grève. Donc, si on raconte ça, on ne peut pas vraiment tricher avec la chronologie, très peu. Parce que sinon, c'est de la vraie triche. Donc, on triche peu, sauf la question, c'est la fin. C'est-à-dire que je crois que notre première préoccupation, c'est de ne pas faire des films déprimants, parce que si on filme, c'est quand même même si on ne pense pas qu'on va changer la société avec nos films et que c'est pas le film qui va rendre la grève victorieuse quand elle est perdue. Mais au demeurant, si on filme ça, c'est pas pour regarder des gens s'écraser comme certains cinéastes le font, mais ça, pour moi, c'est la base. C'est pas ça. Donc ce qui est dit dans votre film et dans le mien aussi, à un moment donné, bon, évidemment que c'est toujours gagné, quoi, en fait, quelque part. Voilà, donc ça, c'est le point de vue de base qui sous-tend les films. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'à la fin, t'es quand même obligé, à la fin, de poser la question de comment tu montres une manif d'enterrement, qui était une manif d'enterrement en 95, et que tu dis autre chose que c'était une manif d'enterrement, on a perdu. Donc voilà, donc là, t'es obligé de faire des entorses avec la chronologie, parce que c'est l'entorse à la véracité pure du documentaire, c'est qu'à un moment donné, pourquoi on les fait, ces films? On les fait pour qu'il y en ait d'autres. Oui. Pas des films, mais des grèves. des luttes. Donc,
Après, nous, on a Clara Hoth, qui est notre monteuse, elle nous a vraiment beaucoup, beaucoup aidés, parce que c'est vrai que nous, on est aussi deux, donc là, il faut...
Faut composer,
et donc finalement d'avoir une troisième personne, c'était vraiment bien aussi parfois quand même. Clara nous a beaucoup aidé, on a quand même monté assez le film. On n'avait pas beaucoup de rush, mais on a monté longtemps. On a mis quand même
combien de temps?
Je crois au moins 13 semaines de montage, ce qui est quand même
dérochage compris.
Avec le dérochage et tout, mais quand même, ce qui est un temps assez long. Mais qu'on n'a plus beaucoup de ce temps-là maintenant dans nos économies de films. Malheureusement, on n'a plus beaucoup ce temps-là. En tout cas, nous, on se l'est permis. Et aussi, comment... c'est vrai que cette chronologie, on le dit beaucoup, là, le jour 1, enfin, voilà, on note en chronologie. Là. Nous, en fait, on a très vite pensé à Sisyphe. Et à cette pierre qui roule et qui continue de rouler et qu'on tombe de la falaise, mais pourtant on continue. Et c'est pour ça aussi en fait, qu'on a fait ce montage et ce choix de montage où finalement on y retourne tout le temps. On descend de la montagne, mais on y retourne. Et on retourne en nager, et on retourne en action, et on retourne voir les collègues, et on y va. Et on s'arrête pas. Et finalement, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui en 2023. Ah oui. Et c'est ce qui se passera encore dès qu'on nous mettra des réformes, contre-réformes.
La différence, effectivement, qu'on voit petit à petit entre 95 et votre film, c'est qu'il y a la répression policière qui est forte chez vous et qui est pas de l'autre côté. Moi, je me suis posé la question de l'utilisation de la musique. Alors, je me dis, est-ce que tu as mis la musique pour édulcorer ou est-ce que tu as mis la musique en plus dessus? Parce que ça fait une distance, une certaine. Au moment où il y a quelqu'un qui se fait matraquer. Ouais. Je me suis demandé pourquoi.
En fait, non. Mais pour aller dans le sens de Barbara et d'Adeline, enfin, pour ajouter, après on passe à la musique, mais effectivement, comme tu dis justement, et ton titre en parle bien, La Grève éternelle, nous aussi on est un peu là-dessus, quoi, sur le mythe de Sisyphe, c'est celui-là. Quand Camus parle de Sisyphe heureux, c'est le prolétaire justement heureux qui en fait trouve du sens en fait, à sa vie parce qu'il lutte. Parce que sinon, le travail est tellement opprimant, aliénant, etc., que c'est la grève émancipatrice quoi, qui permet effectivement de gagner en humanité, finalement. Donc, c'est ça que ça raconte nos films, quelque part.
Enfin, sans parler que même si les choses ne sont pas, même si elles ne sont pas perdues, c'est gagné, je veux dire.
Oui.
il n'empêche que, par exemple, on prend souvent l'exemple de la fameuse retraite à points qui aurait été retirée, n'est-ce pas, grâce au Covid. Concrètement, ce qui est certain, c'est que s'il n'y avait pas eu la lutte, on l'aurait aujourd'hui.
Voilà.
Donc, moi, j'essaye de regarder ça comme ça. C'est-à-dire on ne sait pas exactement qu'est-ce que ces différentes grèves ont gagné. Mais ce qui est sûr, c'est que si elles n'avaient pas eu lieu, on aurait perdu tout beaucoup plus vite.
Ouais.
Donc ça, en tout cas, ce n'est pas une question. Quoi.
Justement, on parle on a choisi un extrait musical qui...
Ah bah voilà, puis après, on parle de la musique. Pourquoi cette musique, effectivement? Parce que c'est important aussi.
J'avais une question par rapport à la musique.
Bah justement, on met d'abord la musique, puis on parle de musique après. Ouais, Les gens qui bossent de Didier Super.
Très bien.
Parce que ça, c'est pile poil.
Un vrai tube de merde pour les grosses radios à la con. C'est qui se lève tôt le matin et qui empêche les autres de dormir? Les gens qui bossent. Mais qui c'est qui se gêne pas pour que les coches fassent des boums? Les gens qui bossent. Ils s'occuperaient de leurs enfants, y'aurait jamais de délinquants. Les gens qui bossent. Ils exploitent la planète et puis tant pis si ça pète. Les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent. À cause de qui y'a que le dimanche qu'il y a les bons trucs à la télé? Les gens qui bossent. Qui c'est qui se dit vivement la retraite mais qui la touchera sûrement jamais? Les gens qui bossent. Qui c'est qui en a marre de payer des allocs aux immigrés? Les gens qui bossent. Et surtout à cause de qui y a pas de boulot aujourd'hui? Les gens qui bossent. Ils ont plus peur de dire tout haut que les chômeurs ils sont feignants. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents de pas être à leur place. Et puis tous les matins, ils prennent tous leur bagnole. Et du coup à cause d'eux, y'a la guerre en Irak. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, franchement y'a pas de quoi la ramener.
Pour combien, là? Oh putain, les mecs, eh, on a fait 2 minutes 4 et le format, c'est 2:30, 2:40. Eh, faut qu'on y retourne, là, ok? Allez, 3, 4. Oh, ah ben les gens qui bossent. Oh, ils sont pas épanouis. Oh, et allez, on se lâche. Oh, ils sont pires que les nazis. Oh, ah ben les gens qui bossent. Oh, eh, ils sont pires que les nazis, c'est des Américains. Oh. Stop! Stop! Eh hey, putain, eh! Hey, 2 minutes 52, les mecs!
Oui, donc la musique dans le film...
Dans la musique en grève.
La musique en grève. D'ailleurs, il y a une séquence très tôt dans le film où il y a une musique, une longue séquence musicale avec les images et la musique vient comme commentaire en quelque sorte sur les images. C'est absolument héroïque. Mais en fait, j'étais très, très impressionnée parce que c'est comme si c'était un avant-goût de l'intervention de l'italien et de l'AG qui est fait à l'opéra. Et Christian qui parle de la musique est très important pour nous et nous avons été très touchés par le soutien de l'orchestre parce que c'est pas les gens que on n'a pas cette idée que ce soit des révoltés, etc. Mais donc ma question c'était votre conscience par rapport à introduire la musique au début, parce que vous savez que vous allez reprendre la présence de Christian. Vous l'avez introduit dans le mensonge en sachant qu'à la fin, lui, il allait avoir ce propos.
Alors non, on ne savait pas qu'il aurait ce propos, Christian. Parce que Christian, c'est le bassiste cheminot qui, quand il découche en fonction des trains, des arrêts, il joue de la basse. Et voilà, donc... ce qui est intéressant, c'est que l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier s'est mis en grève aussi sur le mouvement de 2019. Et à l'Opéra Bastille, il y a eu, je ne sais plus quel jour, l'orchestre de l'Opéra qui a joué Prokofiev, la danse des chevaliers. Donc il y a un moment extraordinaire en termes de puissance musicale liée au mouvement. Et ça fait, si je puis dire, sa petite musique. Et les cheminots ont repris ça aussi dans leur tête. Quelque part, c'était ça, etc. Et on a mis, alors là, pour le coup, un petit peu en scène, Christian, il faut dire les choses, en disant, tiens, pourquoi tu reprendrais pas ce morceau-là, quoi? Et c'est vrai qu'il est parti là-dessus, et il avait envie de jouer ce morceau. Et c'est ensuite, quand il y a eu cet AG à la fin, hein, c'est à la toute fin du film, où les copains et copines de l'Opéra Bastille viennent participer à l'Assemblée Générale de Paris-Est, quoi, des cheminots. Et c'est la magie de ce mouvement aussi. C'est des gens qui se rencontrent, qui ne sont pas forcément dans des univers parallèles. Et finalement, ils se rencontrent et ils s'aperçoivent qu'ils ont aussi une même souffrance au travail, les mêmes enjeux sociaux, les mêmes problématiques. Et voilà, et ça crée une énergie assez incroyable. Et moi, ce que j'ai trouvé fort, et ça, nous, on n'a pas du tout induit ça, c'est le fait que, évidemment, que les gens prennent la parole, des cheminots comme des techniciens ou des musiciens de l'Opéra Bastille, mais c'est surtout Christian, il nous amène la culture là-dedans. Il nous dit, voilà, les cheminots, ben, nous, on est aussi fait de culture, et on aime la musique, et on aime le théâtre, et on aime l'opéra, et ça, c'est... on casse aussi un peu les stéréotypes sur la classe ouvrière.
Et du coup, on avait envie de le mettre comme ça dans le film, en fait. Mmh. C'est-à-dire se faire rencontrer cette musique de l'opéra classique qu'on pourrait peut-être croire élitiste ou... Enfin, oui, qu'il l'est d'ailleurs aussi. Mais en tout cas, on avait envie de la faire rencontrer, se faire rencontrer avec les cheminots et les cheminotes. Puisque, en fait, c'est ce qui s'est passé en Assemblée Générale quand ils sont venus et c'est la fin du film. C'est cette rencontre entre interpro, comme on dit, une rencontre entre travailleurs, travailleuses de l'opéra et de cheminots et cheminotes. Et en fait, effectivement, après coup, on a eu envie de... On s'est dit, Christian, ça serait bien que tu essayes de jouer, comment tu pourrais le faire, donc ça pourrait être sympa. Et après, nous est arrivé derrière l'envie de mettre, mais ça c'est vraiment au montage, donc Black Emperor. Où on a eu les droits, et c'est assez incroyable parce que c'est pas du tout acquis d'avoir les droits de ce groupe de musique, et on a eu les droits parce qu'on lui a présenté le projet du film, on a expliqué vraiment à quel moment on voulait mettre cette musique, et c'était vraiment les moments où il y avait quand même les doutes, et c'était les moments de basculement où on a quand même mis où on a eu envie de mettre cette musique, c'est-à-dire vraiment les doutes, les interrogations, etc. Mais aussi les moments de rage, en fait, qu'on peut sentir dans le film.
Oui, et pour revenir à Black Emperor, ce qui est un groupe canadien alternatif, et ce morceau-là, il date de 98, c'est BBF3, ou 3, je ne sais pas comment on peut dire. Et en fait, ce morceau, on l'avait utilisé avec Emmanuel Roy sur Une journée pour rebondir. On avait pris quelques notes et à l'époque aussi nous avait donné l'autorisation. Et là, ce qui est formidable avec avec ce film sur 2019, ce groupe existe toujours et il continue toujours de se produire sur un mode alternatif, et ils nous ont laissé les droits de ce morceau, et on est très content qu'il soit dans le film.
Ouais. Mais bon, il n'y a pas du tout de musique, toi, dans ton film, Barbara. Par contre, ça, c'est un choix. Et oui. Tu t'es jamais posé la question, en fait.
Volontairement, il n'y en a pas.
Ça aurait alourdi, on s'en passe. De toute façon, c'est vrai qu'on s'en passe complètement dans ton film de musique. Et nous, l'autre extrait qu'on a choisi de passer, c'est un petit extrait sur la déconnexion des politiques. Le fait que ce qu'on se dit au Parlement pendant qu'il y a la grève dehors. Niki, est-ce que tu peux passer ce petit extrait?
Merci. Rich Minot qui chante quand même dans mon film.
C'est vrai.
Il y avait à la radio, il disait que Jean Bercouillou appelait à la reprise. Jean Bercouillou, il ne sait plus où il est. Oui. Il ne sait plus s'il est président de la SNCF ou pas. Maintenant, il doit se croire délégué syndical. Parce que ce n'est pas un président de la SNCF qui appelle à la reprise, c'est les grévistes qui décident de continuer ou de reprendre le boulot.
J'ai eu l'idée idiote de regarder l'Assemblée nationale hier à la télé. C'est complètement affligeant. Il y a un mouvement social comme on n'a pas vu depuis 1968, ou peu s'en faut, et on ne veut pas deviner de quoi il parle, quoi, excepté deux questions de députés du Parti communiste, dont je ne fais absolument pas partie, mais enfin bon, c'est ce qu'il y avait, qui ont posé des questions à propos du mouvement en cours. Les autres, c'est complètement à côté de leur godasse. Ils ont même atteint l'air corps, il y en a un qui a demandé au gouvernement d'infirmer ou confirmer l'armée française va-t-elle acheter ou non de l'armement chez Beretta. C'est une usine d'une industrie italienne, alors qu'il y a des fusils français comme double sécurité sur la gâchette. Bon, voilà. On est dans une situation suivante. Il y a 3 millions de chômeurs recensés en France. Il y en a au moins 2 millions qui ne sont pas recensés. Il y a 2 millions de manifestants dans la rue. Et de quoi on parle à l'Assemblée nationale? Des gâchettes et de chez Beretta. Alors là, vraiment, moi, je ne sais pas. Donc, ils sont fous, il faut les virer. Je ne vois pas d'autre solution que d'aller à la manif.
Il y a encore des gens, des chefs d'établissement qui viennent nous voir ici pour leur demander « Mais est-ce qu'on ne peut pas faire rouler cette fameuse rame de la voie 10 dont les chiottes sont bouchées ?» C'est encore ça qui les préoccupe. Alors que dans le pays, la question qui se pose, c'est effectivement de changer le cours des choses et de remettre en cause la société libérale dans laquelle on vit.
Et on ne l'a toujours pas changé, hein, cette société libérale dans laquelle on vit, c'est 95, ça résonne très fort ces paroles encore pour toi maintenant.
Enfin pour moi,
pour tout le monde.
Je pense pour tout le monde, ouais. Mais c'est toujours ce qui est en jeu, de toute façon, dans des mouvements forts, hein, que ce soit même actuellement, ceci dit, ce dont on entend parler, c'est même si la grève, elle est pour le coup perlée et non reconductible, essentiellement, quoi, on va dire. C'est quand même des questions de changement de société qui se posent. Et de toute façon, bon, après, il y a la question de la violence policière, effectivement, qui s'est invitée dans la discussion, qui prend quand même beaucoup de place sur la façon dont on peut penser la manière de sortir de cette société qui convient plus à personne, quand même. En tout cas, personne qui fait le nombre. L'environnement, enfin, je veux dire, ça, on en parle beaucoup aussi, ce qui est une chose qui était vraiment très absente de ce que j'ai filmé en 95. C'est-à-dire, c'est la perspective de l'écroulement. Donc le jeune là, qu'on a écouté tout à l'heure, il parle de l'argent qui va exploser. Il parle pas de ce que la terre va exploser. Voilà, maintenant. C'est maintenant, il y a une autre qui quand même rend les choses aussi beaucoup plus concrètes et palpables pour beaucoup de monde. Donc c'est-à-dire que c'est vrai que De ce point de vue-là, on mesure quand même l'écart entre ce qui se passait en 95 et ce qui se passe aujourd'hui, même si on peut avoir l'impression que les slogans sont les mêmes, qu'un certain nombre de choses sont les mêmes. En réalité, cette évolution-là, on la sent très très fort dans le suivi du mouvement. Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que dans les années où j'ai suivi les cheminots, bon, j'ai vu arriver des personnes non blanches, qui étaient quand même, en revoyant le film sur 95, c'est assez frappant qu'il n'y en a qu'un seul noir à peu près, il y en a deux dans tout le film.
Et peu de femmes aussi.
Et très peu de femmes. Ah, donc oui, on a vu arriver les personnes, comme on dit, issues de l'immigration, je déteste ce terme, enfin bon, bref, et les femmes qui sont, en l'occurrence en 2018, en 2019, qui sont totalement au premier plan de la lutte et qui aussi, pour moi, rendent plus visible l'état du capitalisme auquel on s'affronte. Donc. Après, par contre, l'attente, le désemparement, le fait de ne pas savoir quoi faire de cette force qui est là, parce qu'effectivement, les chiffres de grévistes, parfois, ils sont beaucoup plus forts que ce qu'ils pouvaient être en 95. Mais par contre, l'incapacité à savoir quoi en faire, moi, ça me renvoie à une question qui est une question de cinéaste, mais une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de faire des films qu'on dit sociaux et que je fais des films sur du beaucoup plus long terme, c'est que pendant un temps, notre rôle en tant que cinéaste engagé, on va dire, c'était quand même de travailler sur la prise de conscience. Malgré tout, ça sert à ça, au minimum. Aujourd'hui, la prise de conscience, pour moi, elle ne sert plus à rien. La conscience, elle est partout, à énormément d'endroits. Avec les jeunes avec qui je fais des ateliers, qui ont entre 11 et... Non, même pas, entre 9 et 17 ans, ils sont extrêmement conscients de ce qui se passe. La question, c'est qu'il n'y a plus aucun rapport entre la conscience et l'action. Et c'est là qu'il y a une faille. Et là, le cinéma, il a plus de mal à agir à cet endroit-là, comme tout le reste. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai filmé beaucoup en 2018-2019, parce que justement, je trouvais ça, même si je sais assez bien ce que je fais, je trouve ça très difficile d'identifier à quel moment ça va se passer, cette chose-là qui mérite plus qu'une autre.
Et tous les deux, apparemment, vous suivez encore les protagonistes pour faire d'autres films.
Oui, enfin, moi, je continue. Ouais. Après, je suis devenue la vétérane de la petite... Je crois que je suis la plus vieille maintenant, entre
le passage entre...
Je commence un peu, voilà. Il y a plus grand monde, parce que quand même, ils ont gagné, ils sont partis en retraite.
Mais oui, c'est ce que je me disais. Je me disais, mais quel âge ils ont, des protagonistes? Dob, il a quel âge maintenant, Dob, de ton film? Dob, qu'on voit dans ton film, syndicaliste cégétiste.
Il a quel âge? Il est...
Voilà, et donc je pense qu'il y a beaucoup de personnages que tu peux pas retrouver.
Non, mais là, en fait, de ceux qui sont dans mon film, concrètement, il n'en reste qu'un.
Christian, il reste?
Non, Christian est parti.
Non plus? Il reste lequel?
Il reste quelqu'un qui parle pas, en fait. Dans ceux qui parlent, ils sont pas là. Mmh. Olivier était encore là récemment.
Hein. Celui qui commence, donc notre premier extrait.
Avec la voilà.
Celui qui dit que c'est Arlette qui lui écrit ses discours tous les soirs. Mais il est parti il n'y a pas longtemps. Et sinon, non, il ne reste plus parti.
Mais la lutte continue. Et du coup, toi, c'est pareil.
Mais nous deux, peut-être ou pas, on verra bien. Mais enfin, en tout cas, là, pour la petite anecdote, Manu, une des protagonistes du film, une des dernières manifs là, contre la réforme des retraites, est venue nous voir en disant ça serait bien qu'on en fasse un troisième. Mais je leur ai dit, alors, quand vous serez en retraite, et on fera le bilan de tout ça, on verra bien ce qu'on a à dire. Il y aura certainement des choses à dire, mais là, pour le moment, là, c'est trop chaud.
Il faut prendre du recul.
Voilà.
Parce que ça, c'est effectivement les slogans qu'on entend contre Macron. On a les mêmes en ce moment dans la rue. Les annuités, c'est 43. Annuités, on nous parle dans les médias, effectivement, on parlait des retraites tout à l'heure. Et on dit tout le temps la retraite à 64 ans. En fait, notre retraite à 60 ans, on est les seuls en Europe à avoir 43 annuités. L'Espagne, ils ont beaucoup moins. Personne ne le dit. Il n'y a personne qui parle des annuités. Personne ne parle en annuités. Donc, c'est sûr que...
Est-ce qu'on a le temps d'écouter l'autre extrait
de En grève,
Est-ce qu'on a le
Nikki, temps Nikki, c'est la technique qui va choisir. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on écoute un extrait?
Donc, on passe à l'agenda.
On va peut-être parler de l'actualité de vos films. On peut les voir, par contre, ça c'est important.
C'est
quand même très, très
une petite chose par rapport aux violences policières. On a un camarade de Sudrail, de Paris Sud-Est, qui a été touché gravement, qui a perdu son œil à une des dernières manifestations. Il a reçu une grenade de désencerclement. Donc nous, enfin, je pense que tout le monde ici s'associe pour qu'on lui apporte notre soutien.
Il y a beaucoup de films, d'ailleurs, qui sont pour les grévistes.
Oui. Alors, on a fait une projection il y a peu de temps à la Parole Errante en soutien aux grévistes. Donc ça, c'était la deuxième projection et ça nous a beaucoup plu parce qu'on a senti qu'il y avait une appétence, une envie, enfin que ça donnait la pêche et que les gens étaient contents de se voir et puis de continuer. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les mouvements sont toujours... Enfin, il y a des corrélations, mais ils sont quand même très différents chacun et les uns des autres, quoi, finalement. Et c'est ça qui est intéressant aussi pour nous en tant que, cinéaste aussi, hein, c'est que les choses se répètent, mais pas complètement, quoi.
Mais quand DVD, même, les films sont inutiles aujourd'hui pour revoir. Enfin,
justement, est-ce qu'il y a un DVD pour les auditeurs qui seraient intéressés pour...
On essaye d'en constituer un, et ça, il faudra voir avec notre producteur. Il y a un bon de commande. Alors, moi, j'ai plus l'adresse de... C'est Canary Film, notre producteur, Laurent Segal. Et il doit avoir un site, Canary Film, et on peut commander le film en grève.
Et après, on n'a pas de projection là pour le moment. On en a une à Amiens, à Paris, on en a fait deux. On est en contact avec plusieurs collectifs en lutte et notamment des cheminots sur Toulouse, Rennes, ou même dans le 78. Alors, je ne sais plus les villes, mais c'est juste que beaucoup sont dans la tête dans le guidon de la grève, justement, et qu'ils ont... normalement, il y aura d'autres projections du film en grève en soutien avec les grévistes.
Et pour Barbara ?
Forcément, c'est un vieux film, donc on peut le demander à Ardèche Images, qui sont les producteurs du film. Mais à part ça, le prochain, il faut encore que je décide que c'est le moment de le monter.
Et puis c'est déjà dur de trouver un producteur.
Mais pour l'instant, j'ai pas cherché, donc je vais pas dire que j'avais cherché. Je sais plus, c'était en 2003-2007. J'avais plusieurs producteurs qui s'étaient attelés à la question. Et puis après, ça s'est pas fait à ce moment-là. Et du coup, c'est une question de. Je revendique de pas travailler sur l'actualité. Donc c'est réellement.
Mmh. T'as besoin que ça mûrisse.
Ce long terme, il fait partie du projet. Donc pour l'instant, je n'ai pas cherché à le produire. J'ai filmé, je me suis arrangé pour pouvoir. Suivre 3 mois en 2018, 3 mois en 2019, mais ce qui représente un vrai travail pour moi, enfin c'est voilà. Et puis maintenant là, j'essaye de voir ce qui se passe, mais
il serait pas visible par exemple. Moi, je trouve que ça serait très intéressant, la plateforme Tank là en ce moment qui fait plein de films en grève, et aucun de vos deux films ne sont dessus, c'est dommage, mais
Les schémas, dans l'occurrence, c'est eux qui font Tank. Donc, s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire.
Il faut les relancer. En tout cas, merci à vous. Et ça met l'agenda de Samia.
Une petite page d'agenda pour vous signaler des projections de films, pas mal de films de membres d'Adoc. Et effectivement, Mélanie, alors sur le site de Tank, on peut signaler qu'en solidarité avec les grévistes contre la réforme des retraites, des réalisateurs, réalisatrices, producteurs, productrices, distributeurs, distributrices mettent à disposition leurs films pour qui veut organiser des séances de projection avec collecte au profit des caisses de grève. Ensuite, pour la carte blanche des samedis d'Adoc, il y aura une projection débat en présence du réalisateur du film Afi Voat, je pense que ça se prononce comme ça, Joyeux Développement de Romain Koselec. Ce sera le samedi 15 avril à 11h au Luminor Hôtel de Ville, métro Hôtel de Ville. Le 8 avril à 14h30 à la Commune Libre d'Aligre, il y a la projection du film Face à Face de Caroline Kim Morange. Il y a aussi la projection de Souffrance au travail, On lâche rien de Daniel Kupferstein. Le lundi 3 avril à 20h30 au cinéma Utopia à Saint-Ouen-l'Aumône. On peut signaler aussi le nouveau film de Denis Gerbrand et Lina Tsrimova qui sort le 12 avril au cinéma Saint-André-des-Arts. Le titre, c'est La Colline. Le film de Marie-Francis Le Jalu qui s'intitule Droit dans les yeux, sortira... En fait, il est un peu partout en France en projection et je peux vous signaler à Chilly-Mazarin le vendredi 21 avril au cinéma François Truffaut, à Neuilly-Plaisance au cinéma Les Fauvettes avec Antoine de Flandre, étudiant du film et la réalisatrice donc Marie-Francine Le Jalu. Voilà, et enfin, pour terminer, le film de Michel Gels, un autre conte de Deville, La transformation des quartiers de l'Est à Paris et à Londres, qui sera diffusé le 5 mai à 20h30 par le ciné-club Ciné-Léon, qui projette des films tous les premiers vendredis du mois à 20h30. C'est où, Michel? C'est dans le 11e,
c'est
ça? Oui, c'est
juste à côté, c'est rue Mercure, c'est le MJC de rue Mercure. Et le ciné-club est un moment très convivial où les gens emmènent à manger, à boire. À 20h30, il y a une séance de cinéma avec une discussion qui est toujours très intéressante. Et ensuite, on partage ce que les uns et les autres ont apporté.
D'accord.
C'est gratuit. Mmh. Et dernière nouvelle, c'est que probablement le lendemain, il y aura le deuxième volet que j'ai fait en face d'un autre conte de ville, c'est La mémoire dans la ville, la transformation des quartiers ouvriers de Paris et de Londres. Et c'est devenu très axé sur la mémoire dans la ville. Et ensuite, j'ai fait un film qui s'appelle À la recherche de Vaubeton. Qui est la mémoire à la campagne, dans le paysage. Et ça, ça sera le lendemain, justement, au Café de la Commune Libre d'Aligre, dont tu as parlé.
Oui, 3 rue d'Aligre, dans le 12e.
Oui, qui est un endroit connu pour la projection des films militants. Et voilà. Et okay. D'ailleurs, il faut qu'on les lance pour aussi faire une projection avec Caisse de Grève. Je pense que ça serait à faire.
À la commune d'Aligre, oui. Et donc, si je peux rappeler juste l'adresse pour la projection de ton film, le premier dont tu parlais, c'est 4 rue Mercœur, c'est ça, hein?
Oui.
Dans le 11e. Mais c'est Voltaire. Voilà pour l'agenda, Mélanie.
Merci beaucoup, merci à tous. On se retrouve le mois prochain.
Avec plaisir, merci.
Ah oui, on a...
La musique, non? Merde,
on n'a pas parlé de la lumière.
Les macronistes sont dans la place. Hey, Martinez, t'es foutu. Le MEDEF est dans la rue. Hey, ok.
Sur les plateaux de BFM, comme un peu partout sur les ondes, les nouvelles en France sont les mêmes. Paraît que la révolte gronde.
Que toute la gauche bat le pavé, même le PS est dans la rue. Longtemps que c'était pas arrivé, Olivier Faure est tout perdu.
Mais à Matignon, à l'Elysée, on lâche rien, on reste debout. Hasta Marlène Schiappa, siempre, oui, on se battra jusqu'au bout.
Que les gauchos viennent nous chercher, gare à toi Philippe Martinez. On est courageusement cachés derrière les cordons de CRS.
On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
Ces pas trois Gaulois réfractaires qui vont nous faire la leçon.
D'après les chiffres du ministère, en fait c'est plutôt 3 millions.
Mais même contre la France entière, c'est nous tout seuls qu'on a raison.
On lâchera rien, pas un copec, pas une année de cotisation.
D'abord si t'aimes pas notre loi, c'est que tu n'as pas bien compris. Heureusement on est les rois pour ce qui est de la pédagogie.
Les sondages donnaient en janvier 55% d'opposants. On retourne tous à la télé, ça passe à 80%.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
Le 7 mars on bloque le pays et on brûle des portraits de Macron.
Merde, ça c'est un trac de LFI que j'ai pris sans faire attention.
Macronistes de tous les pays, unissons-nous contre ces despotes.
Bon, on est 14 et demi, mais on a Olivier Dussopt.
Tout solidaire avec nos frères, les PDG du CAC 40. Solidarité avec Patrick Pouyanné. Solidarité avec Vincent Bolloré. On est là, même si Ruffin ne veut pas, nous on est là. Pour le bien des actionnaires et pour qu'il y ait moins de fonctionnaires, même si Ruffin ne veut pas, nous on est là. CGT, t'es foutu, le MEDEF est dans la rue. CGT, t'es foutu, le MEDEF est dans la rue. Martinez, si tu savais. Aucune opposition. non, non, non à la bordélisation.
On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien,
ouais, nous,
on lâche rien,
ouais, nous,
on lâche rien, 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 on lâche rien,
ouais, nous,
on lâche rien,
ouais, nous,
on lâche rien, on lâche rien.
Ah mais je crois qu'on est dans l'impasse là.
Ouais. Ah et puis on est que 4 là hein, en fait hein. Bon ouais. On se fait un brunch?
Ah non, moi j'ai un conf call là, désolé.
En revanche les loulous, hein, on se fait un débrief à ça.